9h-11h, la vie en bleu, Karine Hurstel.
Parmi les cadeaux que le Père Noël a déposés au pied de votre sapin ce matin, il y a certainement des chocolats. Et aujourd'hui, sur France Bleu Occitanie, dans cette pause gourmande, nous allons vous raconter des histoires de chocolat. Des histoires qui vont vous faire voyager du Mexique à Bayonne, en passant par la Côte d'Ivoire ou l'Espagne. Nous allons aussi rencontrer un dieu, des amoureux japonais ou encore un Toulousain qui eut le monopole du chocolat en France au XVIIe siècle. Ce voyage géographique et historique commence dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie. Pendant ce temps, vous écoutez Christophe Maé pour ce 25 décembre. Ça s'appelle Les gens.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scaras. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
La nouveauté de Christophe Maé sur France Bleu Occitanie, Les gens.
Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Occitanie.
Pour ce jour de Noël, nous sommes très chocolat ce matin sur France Bleu Occitanie. Avec nous, David Angeli pour la chocolaterie artisanale Bello et Angeli à Toulouse. Grâce à lui, nous allons découvrir la grande histoire et les petites histoires du cacao. Les premières traces remontent à 2500 avant Jésus-Christ.
Ah, on a quand même trouvé des traces sur des poteries en fait, poteries Olmec. Donc dans le golfe du Mexique, près de Veracruz, hein. 2000 ans avant Jésus-Christ, déjà, le cacao était utilisé. Par ces peuples précolombiens.
Alors d'autres peuples sont liés au cacao dans ce secteur-là, large, hein, on va dire.
Tout à fait. Dans cette zone, en fait, on a retrouvé des traces également chez les Mayas, 600 ans avant Jésus-Christ, et chez les Aztèques, qui sont eux un peu plus au nord. Donc le cacao était vraiment ancré dans ces populations.
Ils le consommaient comment, sous quelle version le cacao?
Alors le cacao, à l'époque, c'était une boisson. C'était une boisson, ils broyaient les fèves et ils ajoutaient des épices, des piments, du miel, voilà, pour couvrir un peu l'amertume de la fève brute et en faire cette boisson qui était très prisée parce que très nourrissante, énergétique et même des fois considérée aphrodisiaque.
Quand même, oui, on va avoir l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Il y avait chez les Aztèques, si je ne me trompe pas, David Angeli, un dieu du chocolat.
Un dieu très célèbre, le fameux serpent à plumes, le Quetzalcoatl. Le Quetzalcoatl, en fait, le serpent à plumes, alors c'est un dieu extrêmement important chez les Aztèques, et c'est celui que vous retrouvez sur le drapeau mexicain. L'aigle avec le serpent, c'est lui, c'est le Quetzalcoatl. Voilà. Et donc lui, c'était le dieu du cacao. Et la boisson qu'on appelle chocolat aujourd'hui, ou le chocolat, ça vient du Nahuatl, donc la langue des Aztèques, et c'était Chocoatl, qui veut dire eau amère.
C'était la boisson des puissants, même chez les Aztèques, le cacao, le chocolat.
Ben oui, c'est assez surprenant de voir que dès cette époque-là, c'était un aliment, une boisson réservée aux castes supérieures, aux soldats en guerre, aux nobles. Voilà, c'était réservé à ces populations-là.
Alors si on continue un petit peu dans l'histoire, dans les années, Christophe Colomb, il n'a pas été très intéressé par le cacao, hein.
Alors, on va le pardonner, il a trouvé d'autres choses. Hein.
Bien sûr.
Non, en fait, effectivement, c'est lui le premier qui a trouvé le cacao au Honduras, en fait. Mais il n'y a pas forcément prêté attention. En fait, c'est Cortés, le conquistador espagnol, qui après a vraiment mis le doigt dessus et s'est penché sur le cacao.
D'ailleurs, c'était une exclusivité espagnole à une époque, le cacao.
Ben oui, parce que Cortés, en fait, a découvert ça, l'a trouvé intéressant, a bien aimé, et en a envoyé à Charles Quint. Et c'est là que ça a commencé à rentrer en Europe et à devenir un peu, dans le monde hispanique, une boisson à la mode.
C'est toujours le chocolat, la boisson. On n'est pas du tout encore aux bonbons de chocolat. Espagne, et puis on va jusqu'en France, à Bayonne.
Ben oui, voilà. Voilà. Donc ça reste dans un monde espagnol. Et puis au gré des migrations, en l'occurrence sur Bayonne, c'est des Juifs qui s'enfuient d'Espagne et qui amènent le cacao avec eux. Et c'est là qu'on a cette culture du cacao et du chocolat dans cette région-là.
Oui, c'est pour ça qu'il y a des chocolateries célèbres à Bayonne. Ça a commencé là-bas, en tout cas pour ce qui concerne la France. Le chocolat à la cour royale.
Ben voilà, donc c'est là que le chocolat va commencer ou disons le cacao pour l'instant, on va dire, commence à rentrer dans les sphères, dans les hautes sphères d'Europe. Et ça commence effectivement en France. Et ça rentre en France plus fortement à la cour royale au gré des mariages de Louis XIII et de Louis XIV, qui ont épousé les infantes d'Espagne, qui, elles, étaient déjà très, très conquises par le chocolat et vraiment l'ont amené avec elles.
Un Toulousain, à cette époque royale, qui avait le monopole du chocolat. De qui s'agit-il ?
Un Toulousain malin, toujours, toujours. Alors, il s'appelle David Chaillou. Et alors, ce Toulousain malin était officier de la reine. Et il a obtenu le monopole pendant près de 30 ans de la commercialisation du chocolat et du cacao. Voilà. Et c'est donc lui qui a ouvert la première boutique à Paris de cacao et de chocolat, voilà, qui était à cette époque-là vraiment la boisson à la mode dans l'aristocratie.
David Angeli pour la chocolaterie artisanale Bello et Angeli à Toulouse, mais aussi à Saint-Orens. Nous continuons cette jolie histoire du cacao dans quelques minutes avec un Anglais qui invente la première tablette de chocolat et des histoires de terroir aussi sur France Bleu Occitanie.
France Bleu ! Cette année, France Bleu vous offre des fêtes 100% émotion.
Le 31 décembre, poussez les meubles, levez les bras. France Bleu invite pour vous.
Salut France Bleu, c'est Bob Sinclair.
Bob Sinclair. Bob Sinclair. 4 heures de mix inédit pour passer en 2020.
On passe le réveillon ensemble.
France Bleu, 100% d'émotion.
France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à l'émission Prodige sur France 2. Prodige revient sur France 2 pour deux soirées d'exception. Le talent n'attend pas le nombre des années. Chant, danse et instruments, ils sont 16 jeunes virtuoses à interpréter demain soir les plus grands airs de Noël. Prodige, le show de Noël présenté par Marie-Sophie Lacaro, demain soir à 21h05 sur France 2, dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
France Bleu Occitanie, la vie en bleu jusqu'à 11h.
Le chocolat est un aliment plaisir qui symbolise cette période de fête. Avec David Angeli, artisan chocolatier à Toulouse, nous poursuivons cette histoire de cacao dans La Vie en Bleu sur France Bleu avec sa version moderne à partir des années 1650.
En fait, avec l'arrivée des machines, de l'industrialisation, on va avoir des capacités de transformer le cacao de façon différente. Voilà. Et c'est là qu'on va passer d'une boisson toute simple avec une sorte d'infusion de cacao à des choses plus proches de ce qu'on connaît. D'accord ? Et donc c'est là qu'on va avoir, par exemple, Van Houten qui va créer la poudre de cacao en 1828.
La première tablette de chocolat, c'était quand ?
Alors celle-là, on la doit à un Anglais. D'accord ? Donc la poudre de cacao à un Hollandais, la tablette à un Anglais, donc qui s'appelle Fry. 1847, première tablette. Donc, c'est la première fois qu'il a eu l'idée, effectivement, de mélanger la poudre qui avait été créée par Van Houten avec du beurre de cacao et du sucre pour faire des tablettes.
Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que on va s'intéresser à cette route du chocolat. C'est un produit agricole, le chocolat. C'est une histoire de terroir d'abord.
Alors, nous, on a tendance à l'oublier, effectivement, parce qu'on voit le produit fini et souvent, c'est associé à des choses industrielles, un produit fini. Mais c'est un produit de terroir, c'est un produit agricole. Le terrain, comme pour le vin hein, ou pour d'autres produits, va réellement influer la fève et ses notes.
Alors, au départ, on a une cabosse, c'est ça ? Et c'est à partir de là que va commencer la transformation.
Exactement. Le cacaoyer est un arbre assez particulier puisque c'est le seul arbre à avoir un fruit qui est sur le tronc. On a un fruit qui s'appelle la cabosse, à l'intérieur de laquelle il va y avoir une matière légèrement sucrée et des fèves. À ce moment-là, c'est plutôt des graines, hein, c'est les graines du fruit. On ne les appelle pas encore des fèves, mais elles deviendront des fèves.
L'idée, c'est d'ouvrir la cabosse, puisque là, David Angeli, on parle de transformation, et de récupérer ces graines.
Exactement. Donc, la première opération, c'est de récupérer les graines, les faire fermenter avec la partie blanche, de les sécher pour arrêter la fermentation. Et ensuite, on va commencer à les broyer petit à petit pour rendre le mélange de plus en plus fin et intégrer ensuite du sucre et du beurre de cacao.
Et puis, il y a une étape importante, c'est ce qu'on appelle la conche. C'est ça, David Angeli ?
Voilà, c'est ça, la conche. C'est un outil qui a été créé par une personne qui est très connue, qui s'appelle Lindt.
Ah, bah oui.
Voilà. effectivement, il a trouvé une technique, un peu par mégarde, pour éliminer l'acidité du chocolat et le faire devenir très, très onctueux. Donc, c'est un processus qui est assez long, qui peut durer autour de 18-24 heures.
Tous ces processus-là font le goût du chocolat, mais la base, quand même, c'est le terroir là où a poussé le chocolat qui donne ses premières notes hein, au cacao, au chocolat.
Oui, tout à fait. C'est vraiment si vous voulez faire l'analogie, c'est la différence entre un Bordeaux, un Bourgogne ou un Rioja. C'est vraiment le terroir qui va donner les tonalités. Et ensuite, la transformation, bien sûr, a son impact. Donc, on parlait tout à l'heure d'ajouter du sucre et du beurre de cacao. Ça aussi, c'est fondamental. Tout ce processus-là va aussi faire que le chocolat va être bon ou pas, et ou plus gras, plus sucré, etc. Voilà.
Alors justement, on parle souvent de pourcentage de chocolat. C'est même tout à fait tendance hein, depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de pourcentage de chocolat, David Angeli ?
Alors, le pourcentage, c'est le pourcentage de produits issus du cacao. Alors, le point important à garder en tête, c'est que c'est la masse de chocolat qui va être très, très amère et le beurre de cacao qui est un gras liquide souvent ou qui n'a pas de goût. Voilà. Donc, c'est l'association de deux choses qui sont très, très différentes. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un pourcentage très élevé avec des proportions de masse sèche plus ou moins élevées.
Ce qui veut dire qu'on peut avoir un chocolat à, mettons, 85%. Si on prend deux plaquettes, il y en a une où il peut y avoir beaucoup de gras et puis l'autre beaucoup moins. Comment on va savoir, nous, lequel il faut choisir, du coup, David Angeli ?
Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Vous pouvez le savoir en regardant les étiquettes. Mais effectivement, d'une manière générale, on pense qu'un pourcentage élevé est très amer, peu sucré, ce qui est vrai. Mais par contre, il pourrait éventuellement être très gras. Donc ça, il faut y être un peu attentif. Mais en tout cas, moi, pour faire simple, je dirais, quand vous achetez une bouteille de vin, vous ne demandez pas une bouteille à 12 ou à 13. Vous demandez un Bordeaux, un Bourgogne ou autre chose. C'est exactement la même chose avec du chocolat. Il ne faut pas partir forcément par le pourcentage. Il faut plus partir par les tonalités, les notes et les saveurs que ce chocolat va avoir.
Et pourra-t-on encore manger du chocolat en 2050 ? La réponse dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie. Après Olivier Chitam, on part dans les années 80 hein, avec Get Down Saturday Night sur France Bleu Occitanie. Get down, it's Saturday night. Olivier Chitam, Get Down Saturday Night pour vous accompagner en musique en ce 25 décembre, jour de Noël.
La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.
Et dans La vie en bleu ce matin, on parle de chocolat. Les Européens et les Français sont des accros au chocolat. Et d'autres pays dans le monde rejoignent la communauté des chocolavores. Mais le cacao est une matière première qui n'est pas inépuisable pour différentes raisons. Sur France Bleu Occitanie, David Angeli, artisan chocolatier, répond à cette question. Pourra-t-on encore manger du chocolat en 2050 ?
Alors effectivement, c'est un sujet qui revient fréquemment sur le devant de la scène. On peut se poser la question. Ouais, il y a, par exemple, nous, on a des producteurs amis qui sont au Vietnam. Et effectivement, il y a des concurrences entre productions, entre le café, entre pamplemousse. Voilà. Donc il y a déjà une concurrence comme ça. Mais les deux sujets vraiment importants qui peuvent impacter à long terme la présence du cacao, c'est le changement climatique. Voilà, parce que le cacaoyer est très fragile. Il est très fragile, il a besoin de autour de 28 degrés, d'une humidité à 80%. Et il est évident que si le climat se dérègle, il pourrait être impacté.
Il y a déjà des points négatifs, je crois, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est ça ?
Oui, il y a quelques soubresauts, effectivement. Il y a des fois des pluies qui sont très fortes en dehors de la saison des pluies ou des sécheresses. Je pense que comme en Europe, on s'aperçoit que le climat parfois peut devenir violent. Donc effectivement, il y a une certaine préoccupation autour de ça, oui.
Est-ce qu'il y a des solutions ?
Alors sur le climat, c'est un vaste sujet, c'est vraiment le gros sujet, mais oui, il y a des solutions. Après, effectivement, côté climat, il y a des recherches qui sont en cours pour rendre les pieds de cacao beaucoup plus robustes au climat changeant. Ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, rien n'existe. Après, il y a effectivement la possibilité de faire de l'agroforesterie en protégeant un peu plus les cacaoyers des rayons de soleil ou de la pluie, voilà.
Parce qu'on pourrait faire aussi d'autres grandes plantations, mais ça nécessiterait la déforestation et c'est pas la solution.
Mais c'est un risque, effectivement. S'il y a beaucoup de demandes, effectivement, il peut y avoir le risque de on va dire, croissance sauvage. Et on l'a vu récemment dans pas mal de pays, comme la Malaisie pour l'huile de palme ou en Amazonie pour le soja. Donc ça, c'est effectivement le risque. Il faut rester vigilant là-dessus et essayer d'influer à notre petit niveau sur ça, même si c'est difficile parce que c'est très très en amont dans la filière.
La consommation de chocolat augmente aussi. Alors c'est une bonne nouvelle pour les chocolatiers comme vous, on est d'accord, mais au-delà de ce clin d'œil, c'est un souci également.
Bon, alors il faut avoir en tête que le chocolat artisanal, c'est même pas 10% de la consommation. Hein. C'est vraiment le gros de la consommation du chocolat, c'est l'industrie.
Et vous êtes chocolatier artisanal, hein, je le reprécise.
Oui, c'est ça, tout à fait. La consommation augmente, oui, c'est vrai. Elle augmente principalement dans des pays comme la Chine et l'Inde. Voilà. Ou pour vous donner une idée, en 2010, les Chinois consommaient 40 grammes de chocolat par personne, en moyenne. Aujourd'hui,
par an.
Voilà, pour référence, en France, on est autour de 6-7 kilos. Hein. Et donc, ils sont déjà à 100 grammes. Donc, vous aurez bien compris qu'avec ce volume de population, ça va être difficile de soutenir le rythme, effectivement. Donc, il y a effectivement cet aspect-là de consommation. Donc, la consommation, aujourd'hui, globalement, croît deux fois plus rapidement que la production.
Dans quelques minutes, on revient au chocolat comme aliment plaisir avec cette question. Un baiser passionné provoque-t-il autant de plaisir que la dégustation d'un carré de chocolat ? En tout cas, je peux vous dire que d'écouter Frank Sinatra chanter, c'est quasiment le même bonheur qu'un baiser passionné. Le voici sur France Bleu Occitanie.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Make the Yuletide gay.
From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days,
happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Sur France Bleu Occitanie, Francis Albert Sinatra, on l'appelait aussi The Voice ou Blue Eyes. Dans un instant, sur France Bleu Occitanie, on se met en mode gourmandise, comme tous les jours, vous me direz, à partir de 10h. Pour ce jour de Noël, c'est chocolat. Dans un instant, des Japonais amoureux qui mangent du chocolat et les effets du chocolat sur notre bien-être, que l'on soit au Japon ou ailleurs.
France Bleu, média officiel de l'équipe de France masculine de handball en route vers l'Euro 2020. Les Bleus retrouvent l'Accor Hotel Arena et la prestigieuse Golden League en guise de préparation au championnat d'Europe. Nicolas Karabatic, Ludovic Fabregas, Nedim Remili et leurs coéquipiers vous donnent rendez-vous dimanche 5 janvier à Paris dans le temple du handball français face aux champions du monde et champions olympiques danois. Toutes les informations sur ffhandball.fr.
APF France Handicap lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Brigitte est bénévole à l'association, elle nous explique comment elle s'y prend dans ses ateliers.
J'essaye de leur donner confiance en eux, en les faisant participer, chacun à leur façon, soit manuelle, soit intellectuelle, parce que tout le monde peut participer à des travaux divers. Il suffit de leur donner confiance pour qu'ils créent quelque chose eux-mêmes.
Ne pas subir l'isolement,
c'est la base.
Pour soutenir l'association, faites un don sur apf-francehandicap.org.
France Bleu Occitanie, info, trafic et mobilité en temps réel.
Et le point sur vos conditions de circulation à 10h30 sur France Bleu Occitanie va être rapide. Il n'y a pas un chat sur la route. On peut parler donc du mardi 31 décembre pour cette soirée du réveillon du nouvel an. Tisséo à Toulouse vous propose un service en continu. En fait, les lignes A et les lignes B et la ligne B du métro seront ouverts donc 24 heures sur 24 toute la nuit du 31 décembre. Et pour la ligne 1 du tram, le dernier départ se fera à 2h20 du matin depuis Palais de Justice.
Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h. La vie en bleu sur France Bleu Occitanie.
David Angeli pour la chocolaterie artisanale toulousaine. Bello et Angeli est l'invité de France Bleu Occitanie aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Viener. Le chocolat, c'est vraiment un aliment plaisir. On va y venir dans un instant, mais avant cela, on va au Japon, où on adore le chocolat, il paraît.
Les Japonais ont une vraie culture gastronomique, hein, ça, je pense que c'est plus à démontrer. Et effectivement, le sucré, les pâtisseries, le chocolat, c'est quelque chose qui a pris déjà une importance très très marquée au Japon. Le moment du chocolat au Japon, c'est quand même la Saint-Valentin. C'est vraiment le rendez-vous chocolat de l'année, c'est incontournable.
C'est à la même période qu'en France, la Saint-Valentin japonaise ?
Tout à fait, c'est le 14 février. La seule différence, c'est que le rite là-bas est un peu différent, puisque c'est les dames qui offrent des chocolats aux hommes.
D'accord. Mais il y a quand même une contrepartie, je crois.
Voilà, il y a une contrepartie, c'est que pour le White Day, donc exactement un mois après, le 14 mars, en retour... Les hommes sont censés offrir quelque chose, alors pas forcément du chocolat, ça peut être du chocolat, mais ça peut être autre chose, qui est grosso modo trois fois plus gros.
Ah oui.
Donc c'est un investissement, on va dire.
C'est un investissement de ces demoiselles et de ces dames à la Saint-Valentin, on l'a bien compris. Le chocolat, on l'offre aussi au sein de l'entreprise, dans le monde du travail.
Oui, voilà. Donc la Saint-Valentin, les cadeaux pour la Saint-Valentin sont un concept un peu plus large que ce que l'on a en Europe. Donc il y a effectivement le cadeau pour les proches, alors époux, petite amie, etc. Ça, on l'appelle le on-may choco. D'accord, donc c'est le cadeau qu'on va faire et qui est vraiment de luxe. On va offrir le meilleur chocolat pour nos proches. Mais il y a aussi un cadeau, on va dire, qui est un peu plus d'obligation pour l'entourage professionnel, pour les supérieurs hiérarchiques, pour les collègues. Voilà, et donc là, on va offrir quelque chose, mais probablement moins cher.
Voilà. Mais on offre du chocolat quand même.
On offre aussi du chocolat, tout à fait.
Le chocolat s'offre entre amis, chez les ados notamment, voilà. Chez les copines. Voilà. Je ne sais pas comment on dit copine en japonais.
Voilà, exactement. C'est le troisième, on va dire, type de cadeau. C'est entre copines. Alors c'est vrai que c'est plutôt des étudiants, des lycéennes qui vont s'offrir des petits cadeaux entre elles. Et on appelle ça le tomo choco.
Le tomo choco, donc voilà. C'est les cadeaux chocolatés entre copines.
Cadeaux copines, voilà, c'est ça, exactement.
Bon,
voilà.
En plus, on apprend à parler japonais grâce à vous, David Angeli. Au Japon, mais partout dans le monde, notamment en Europe, pourquoi on est fou, on est red dingue de chocolat?
Bah, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je pense que c'est aussi finalement une excuse pour se retrouver, pour passer un bon moment.
C'est du partage.
Ouais, c'est du partage. Voilà, donc on a la chance de travailler dans un domaine plaisir entre guillemets. Où finalement les gens qui viennent nous voir sont ravis, se projettent dans un moment agréable en famille, entre amis, un bon moment gustatif effectivement aussi. Donc ça c'est vraiment, je pense, le côté un peu partage et moment un peu relax, sympa. Après effectivement, il y a aussi un aspect de contenu du chocolat.
Il y a quoi dans le chocolat? Il y a des mots étranges?
Il y a des éléments comme la théobromine, en fait, qui vont être un peu stimulants, qui vont donner de l'énergie. Voilà. Et je pense que ça contribue à se sentir bien. Voilà.
Quand on parle d'aliments plaisir, on va y revenir tout de suite avec quelqu'un qui a dit quelque chose. Alors, de qui s'agit-il? Et quelle est cette phrase?
Alors, c'est un psychologue qui s'appelle David Lewis et qui disait, que le chocolat finalement est, lorsqu'il est dégusté et que vous faites dissoudre le chocolat dans votre bouche tranquillement, c'est quelque chose qui va provoquer une augmentation importante de l'activité cérébrale et du rythme cardiaque. Et il compare ça avec un baiser passionné et il dit que le chocolat provoque un effet quatre fois plus puissant que le baiser passionné. Donc, c'est à voir, à comparer. Chacun fera sa petite étude, mais bon, tout ça traduit en fait qu'effectivement il y a un aspect métabolique du chocolat qui a un effet un peu stimulant et qui génère du plaisir dans le corps au-delà de l'aspect social et familial qu'on vient d'évoquer.
Merci à David Angeli pour la chocolaterie artisanale Bello et Angeli à Toulouse et Saint-Orens, à retrouver évidemment sur francebleu.fr.
La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.